Patrick Romieux, je suis anthropologue à Cresson. Je travaille en général sur les questions d'espace sonore, mais effectivement avec la problématique englobante de l'ambiance, même si je ne parle effectivement jamais d'ambiance sonore, ce qui serait, je pense, une erreur théorique. Et donc, je vais vous présenter là un travail qui dure depuis 3 ans, qui est l'ethnographie du crash de l'avion de la Germanwings qui a atteint les Alpes de Haute-Provence le 24 mars 2015. Ce travail va faire l'objet d'une parution, je pense, à la fin de l'année ou tout au moins au début de l'année 2019. Et, chose importante, il se conduit en parallèle avec un artiste vidéaste qui est en train, dans le même temps que le travail ethnographique se fait sur le terrain, de faire avec moi, et surtout, j'espère, aussi contre moi, un film qui reprend des éléments de ce travail de terrain. Nous faisons donc du terrain ensemble, nous nous rendons ensemble sur les lieux, nous interrogeons les gens, et à la fois, il est amené à effectivement le conduire sur son propre psychisme, sa propre réception qu'il a eue de cet événement, et donc de construire une intertextualité, pour moi c'est très important, une intertextualité entre le film et le texte qui sera donc écrit, qui, je pense, va être constructive et en tout cas qui est là pour, dans une expérimentation, expérimenter pour moi une tension heuristique. Et d'un point de vue méthodique et méthodologique, nous avons décidé de nous rencontrer de temps en temps. Bon, nous habitons le même endroit, je vais en parler tout ça, qui est juste à côté justement du lieu du crash. Et de nous rencontrer pour parfois nous enregistrer et savoir où nous en sommes l'un de l'autre. Mais par contre, au moment d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus lui parler de mon travail et lui de la même façon pour retrouver à la fin, pour voir comment les choses vont s'entrechoquer et donc certainement continuer, je l'espère, à produire pour moi, en tout cas lui, ce sera aussi à lui de trouver les ressources que ça aura pu lui apporter. Donc une tension épistémologique et pour moi aussi une tension d'écriture. Voilà. Je voudrais préciser 2 choses. C'est que les hypothèses de ce que je vais dire, vous présenter tout à l'heure, sont des hypothèses qui sont ad hoc, qui sont donc ad hoc vraiment élaborées pour ce terrain-là, qui sont bien entendu tout à fait provisoires. Et je me donne même le devoir de mettre toujours en place un roulement pour moi de théorique, méthodologique, pour ne pas effectivement m'asseoir ou m'endormir sur des acquis, parce que c'est une dimension fondamentale pour moi d'anthropologie. C'est que j'arrive sur place avec un certain nombre de présupposés, un certain nombre de prérequis, un certain nombre de représentations. Et si je pense le travail anthropologique se fait correctement, eh bien à la fin, je devrais avoir à réviser énormément tout ça pour m'adapter et tenter de décrire, m'adapter pour décrire une réalité qui s'est construite sous mes yeux, que j'ai en partie construite. Et là, c'est la raison pour laquelle peut-être, on verra, on en parlera tout à l'heure, je me poserai peut-être un petit peu à ce qui a été dit de l'ego tout à l'heure et du jeu, parce que, bien sûr, in fine, ça revient à ça, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire, hein, je parle en mon nom, mais je crois que la dimension de l'intersubjectivité, la dimension de l'intertextualité sont des faits effectivement très, très importants et fondamentaux. Dans ce travail, qui est gouverné par la notion d'ambiance, que je vais très rapidement définir avant de vous remettre en mémoire l'événement et donc de présenter ce court film. Je voudrais, pour que ce soit clair, vous préciser quelques objectifs qui sont les miens. Le premier, c'est d'évaluer la pertinence de ce que j'appelle, de ce que je suis en train de construire. Vous savez, enfin, vous savez ou vous ne savez pas que dans notre laboratoire, nous sommes très, très, toujours très intéressés par la question des faits, parce que l'ambiance, on ne peut l'apprendre que par les faits. Et notamment, nous avons travaillé longues années sur les effets sonores. Mais moi, je m'intéresse particulièrement à ce que j'appelle l'effet de traîne, l'effet de traîne d'un événement, et notamment dans un contexte d'ambiance donc pathique, qui là va être surdéterminé par l'imaginaire de la mort. Et d'évaluer l'impact dans un deuxième temps de ce retour de la mort dans un imaginaire de l'hyper-présent, qui est, d'un point de vue anthropologique ou sociologique, absolument non préparé à sa réception, car je pense que ce que nous a même été présenté hier dans tout ce dispositif nouvellement technologique est une machine incroyable qui est mise pour lutter contre la mort. On voit d'ailleurs très bien que ce sont les mêmes qui réfléchissent au post-humain, à l'éternité, etc., et que s'il y a bien deux tabous, malgré le déferlement que permet justement aussi certainement le numérique, malgré le déferlement du pornographique, etc., il y a deux tabous qui restent, que d'ailleurs Freud avait bien identifié, c'est le tabou de la mort, très difficile de parler de la mort, et en fait, quand on approfondit, très difficile de parler du sexe, notamment avec un retour, pour moi, très anglo-saxon, un moment absolument dingue, très utile d'une espèce de puritanisme insupportable. Donc, une autre sous-hypothèse qui est l'hyper-affectuel de cet hyper-présent, car l'affectuel est véritablement instrumentalisé pour énormément de choses, évacue de sa toute-puissance les affects qui sont des affects anthropologiquement reliés à la mort et historiquement constitués. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans ce moment qui est un moment du faux, ça a été dit hier, et on n'a pas cité, mais je crois que derrière ce faux, le vrai faux, il y a quand même Guy Debord, il ne faut pas l'oublier, hein, avec la société du spectacle, ces affects empêchent de véritablement penser aussi quelque chose d'aussi essentiel qui est notre disparition. Et je vous rappelle que nous parlons là sous la dominance du thème de la disparition. Donc en fait, hypothèse par rapport à notre problématique, le trop-plein affectuel réalise la mise à mort du lieu en le sacralisant, en le privant notamment du tissu nourricier de la praxis, c'est ce que je vais tenter de montrer, l'effet anesthésiant qu'il peut y avoir. Et donc, ce que je voudrais, à travers cette communication, c'est évaluer la puissance fondatrice de l'événement dans la genèse, dans la production du local. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant, donc, je voudrais vous ramener un petit peu à la mémoire ce qui s'est passé. Et pour ce faire, je vais vous présenter, c'est à peu près 10 minutes, un extrait justement du film que nous sommes en train de faire. Je vous demanderai toute votre bienveillance et je m'excuse. Ça a été vite fait pour le présenter. Et il y a notamment à la fin, je vais vous dire très rapidement les séquences, pour aller vite. Il y a notamment à la fin, dans l'entretien du maire d'une des trois communes qui a été impactée et qui est le maire, d'un point de vue territorial, qui est responsable chez qui c'est arrivé, et qui a signé de sa main les actes de décès des 150 personnes disparues, et avec le problème des ambassades, avec le problème des assurances, etc., il a en fait signé de sa main 2600 actes de décès pour quelqu'un qui en signe une dizaine ou plus dans une petite commune. Hein. Et donc là, évidemment, il y a quelque chose en rapport très émotif. Donc le film, vous allez voir, va être une présentation très rapide sur le dispositif médiatique sur lequel je reviendrai, qui a été très puissante, qui nous remet dans ce qui s'est passé. Ensuite, après, vous allez avoir un tout petit montage avec un extrait d'un entretien que le cinéaste a mis avec des scènes subjectives qui sont les siennes. Et à la fin, vous aurez l'entretien du maire de la commune de Prats. Voilà, je vous laisse regarder donc, et nous nous remettons dans l'événement. Juste pour vous dire que le mardi 24 mars 2015, j'habite à 12 km, moi, de l'impact, à vol d'oiseau, on va dire 5-6 km. Je me lève, je prends mon café, je remonte dans ma chambre, je sais que j'ai des copies d'étudiants à corriger, je vais aller sur ma terrasse. Là, comme tous les matins, là, vous voyez, c'est le régime du jeu, hein, grand jeu, hein, là, comme tous les matins, je me sonne. Me sonner, comme en sonner la bonne, moi, je me sonne moi-même. Je prends soit mon clavier, soit ma guitare, et je fais de la musique, ou je fais des gammes, ou je fais du jazz, ou je fais du rock, ou je fais du son dissonant. Je me mets en transe pour me sonner, pour vivre ma journée. Je descends, je me mets sur la terrasse, je corrige mes copies. Je travaille sur le son. Depuis 3 ans, je travaille sur le petit parcours, 3 km, qui sépare mon domicile de la ville de Digne. À ce moment-là, passe une voiture de gendarmerie. Il est 11h45. Je me dis, mon Dieu, la belle sirène. Mon Dieu, la belle réverbération. J'écoute tout ça, je suis ravi. Vous savez, travailler sur le son, on est tous un peu hystériques quand même. Hein. C'est l'hystérie. Hein. Donc, évidemment, ça me met presque en danse, là. Hein. Je suis content. Deuxième sirène. Troisième sirène. Quatrième sirène. Trentième sirène. Je me dis, nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Attentat, bien sûr. Nous sommes après Charlie. Lieu. Où? Ubiguïté. Je me dis, mais enfin, attentat, où? Où? Je regarde devant moi des montagnes, des lacs, l'Italie au loin. Le Piémont. Il n'y avait pas les migrants à l'époque. Pas le problème de migration encore, comme nous l'avons maintenant. Donc, pas les migrants. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Grave accident, je ne sais. Et puis je me dis, le loup, ça y est, ils s'en sont pris au loup. C'est la guerre contre le loup. J'attends un peu, et je me dis quand même, je n'ai pas la télé, je ne vois pas la télé, je n'ai pas de télé chez moi, je n'aime pas les écrans. Car l'écran, vous le savez bien, cache, comme disait Lacan, quand il y a un écran, il y a quelque chose à cacher. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends la radio, 13h, et j'apprends qu'il y a eu un crash juste devant chez moi. Et je me dis, très rapidement, eh ben ça y est, et te voilà arrivé un nouvel truc, ça va être un terrain d'anthropologie, ça c'est sûr, tu vas y aller.
L'accident de cet Airbus A320, cet avion 4U9525, pour prendre son numéro tel qu'il était inscrit sur les ordinateurs, sur les écrans de vol entre Barcelone et Düsseldorf, puisque cet appareil était parti ce matin de Barcelone. En Espagne, il devait rallier Düsseldorf et il s'est écrasé à 10h47. C'est le moment où on a perdu sa trace. On va en parler bien sûr avec nos envoyés spéciaux. Ils sont sur place dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes avec nos experts en sécurité aérienne, nos experts aussi en aéronautique. On va prendre la direction tout de suite de Seine-les-Alpes où s'est installé le PC de sécurité.
Merci beaucoup pour la bonne collaboration dans les moments plus difficiles. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci beaucoup. Merci.
Sir, when did you find the 2009 email from Lubitz?
I'm sorry.
Sorry for that.
Thank you.
Thank you so much.
Sir, your employee crashed a plane. Why are you refusing to take questions?
Thank you. rassemblés. À vos ordres, monsieur le président de la République.
Colonel, je vous demande de présenter à la chancelière, au président du gouvernement espagnol, les services qui ont travaillé à vos côtés pour assurer ici les services indispensables.
Donc, ont été engagés depuis hier la gendarmerie nationale, la sécurité civile, les pompiers, le 4e régiment de chasseurs de Gap et de nombreux personnels volontaires.
Et le chantier, ça a duré une nuit pour tout mettre en place, la nuit du mercredi, je crois, le mercredi soir.
Mercredi soir, ouais, voilà. C'était le mardi, c'était le mercredi.
Et là, on est dans une autre, d'un coup, on passe dans une autre dimension, quoi. Où on,
ça a été.
C'est incroyable. On le voit dans les films des fois, mais là, de voir ça à côté de chez soi, c'est autre chose, quoi. Parallèlement, il y a la chapelle ardente qui se monte juste à côté au gymnase, à la maison des jeunes qui est là. Les hélicoptères qui atterrissent à 200 mètres avant et tous les convois qui passent. Et puis voilà, d'un coup, on est dans un truc fou, quoi. Puis là, on s'aperçoit que finalement, ça ne va pas durer 2 jours, quoi. C'est 3 jours. Puis après, ils viennent nous voir. Il y en a au moins pour 15 jours, peut-être au moins, on va être
après,
là.
Ils nous avaient dit jusqu'au 12 avril. Je m'en rappelle
Ah ouais, c'est là qu'on a réalisé que bon, ça allait s'installer, quoi, vraiment. Le quartier était bouclé, quoi, carrément. Tout le village a changé, a vécu au rythme de tout ce qui se passait chaque fois, la venue des chefs d'État. Moi, en tant que menuisier, quand ils sont venus, il a fallu installer les machins, contribuer, monter le podium dans le hangar qui est juste dans la zone d'activité. Enfin, d'un coup, on s'est trouvé à faire des décors de théâtre, quoi, des étagères pour mettre dans les containers.
Oui, ça, ouais, ça.
Parce qu'ils avaient pas, ils avaient reçu les containers, mais ils n'avaient pas des trucs pour ranger tout ça. Donc, on a fait des socles, des étagères en bois pour mettre les... Mais voilà, donc du coup, on s'est trouvé à être là, à être au service, parce que c'est aussi rendre service malgré tout. Hein, on était dans sur notre planète, hein, tout a été... Et après, c'est les bus qui commençaient à arriver la semaine d'après.
Ouais, les familles.
Les familles, etc.
C'est
là que c'est devenu un peu...
On voyait les petits sacs qui passaient, les poubelles. Je n'osais même plus jeter mes trucs dans la poubelle. Je me suis dit, t'as envoyé un petit... Enfin bon, ça a été quand même... Ça a été... Et puis bon, le bruit. Donc j'ai dormi avec des bouquettes pendant 3 semaines. Ouais,
ouais. Pouvez-vous parler du bruit, s'il vous plaît?
Le bruit, c'était le bruit des... Ils devaient avoir mis
des groupes électrogènes. Et des compresseurs pour le
froid. Et donc notre chambre donne là. Et voilà, donc c'était...
Ça
ronronnait, il y avait un ronronnement, mais bon, voilà.
Ce bruit vous faisait penser à quoi? Il vous évoquait de quoi?
Ce qui se passait aussi, ce qu'il y avait à l'intérieur.
C'est ça. Et puis bon, on avait les... Non, c'était un bruit de machine, quoi. Ça faisait comme ça. Et bon, la nuit, voilà. Bon, puis après, on est des gens qui bossent, quoi. Quand il faut se lever le matin, qu'on ne dormait pas la nuit, c'était pas... La fenêtre de la chambre, je ne l'ai pas ouverte pendant 3 semaines. La fenêtre, elle est volée.
La problématique de cette stèle, c'était de laisser la place dans le projet même. Il fallait que chaque famille puisse mettre des objets personnels enfermés dans la stèle, dans l'œuvre. Donc, c'est ce qui n'était pas évident au départ. Donc, tout le monde a présenté un peu ses projets. Il y en avait 25. Bon, il y en avait 2-3 un peu farfelus qu'on n'a pas retenus. Bon, on a fait une classification. On est arrivé à 7. De 7, on est tombé à 3. Puis, on en a retenu un. Et c'est ce projet-là qui est sorti, qui a fait, je dirais, quasiment l'unanimité. Voilà. Qui nous paraissait intéressant parce qu'au milieu, il y a un cylindre qui enferme des boules serties en bois, hein, et où les gens ont pu mettre des objets leur appartenant en souvenir de leur défunt. Donc ce système de boules ne nous a pas déplu. Après, le système de la boule en elle-même, il ne nous a pas déplu non plus. Donc voilà. On a opté pour cette solution-là. Mais
elle est un peu solaire, non?
Oui, elle est un peu solaire. Et alors, elle a, sans le savoir, elle a un double avantage, c'est qu'au coucher du soleil, elle est encore plus jolie qu'en plein soleil. Parce qu'elle a deux couleurs. Elle a la partie qui reflète au soleil, donc qui reste orangé, ocre orangé. Et puis, la partie montante qui commence à monter et qui est dans l'ombre, c'est une espèce de. Ça, avec la robine, ça fait une espèce de violet sur le métal. Ah, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Moi, je l'ai vu le matin, l'après-midi, ouais, le soir. Et chaque fois, je regarde parce que bon. Et on est attiré. Moi, ça me. Chaque fois que j'arrive là-haut, je jette un coup d'œil à la sphère parce que voilà. Ça ne s'explique pas, quoi.
Peut-être aussi le lieu, non? Parce que c'est le lieu, c'est l'impact. Vous y pensez?
C'est aussi le lieu, ouais. J'y pense tout le temps. Chaque fois que je suis là-haut, j'y pense en permanence.
Quoi? À la sphère? Au lieu?
Non, au lieu. Oui. La sphère, ça marque le lieu, mais ça marque surtout le lieu pour les familles des victimes, pour le respect des morts. Mais moi, non, moi, j'ai tellement vu de choses dans ce décor, de débris, que ce soit des restes humains ou des débris matériels.
Que vous ne pouvez pas l'enlever.
Non, hein. Voilà, j'ai cette image-là.
La sphère, vous ne l'enlèvera pas. On est d'accord.
Ouais, on est bien d'accord. Mais je vais vous dire une chose que j'ai vécue ici, de suite après l'événement, c'est que quand j'entends, des fois, quand je suis occupé, j'y pense moins, je suis à la mairie, j'y pense moins, mais des fois, quand je suis chez moi, que j'entends un avion qui passe, je sors. Je ne sais pas pourquoi, je sors. Ça me le fait moins maintenant, mais au début, systématiquement, je sortais. Une fois, on était à table avec mon épouse, il y a un avion qui est passé, un A400, là, les nouveaux avions transporteurs militaires là, avec des grosses hélices, là, ces gros trucs là, qui remplacent les Transal, qui vont remplacer les Transal. J'étais en train de déjeuner, j'ai entendu ce truc arriver, je dis à ma femme, je dis, mais c'est un avion, je sors comme un fou, je vois cet engin. Alors j'en avais vu un à la télé, quand ils ont présenté cet avion là. Je l'ai reconnu de suite, j'ai dit bon, ça va, c'est un avion, un transporteur. Mais c'est pendant longtemps, le moindre bruit, comme maintenant, on a toujours les yeux levés au ciel. Quoi. Parce que moi, la ligne Barcelone-Düsseldorf, qui a été arrêtée pendant 3 semaines, je crois, qui a été remise en service après,
elle passe au-dessus.
Et c'est toujours le 10h40.
Ah ouais.
Ah ouais, c'est toujours la même heure. Hein. C'est extraordinaire.
Donc c'est peut-être un petit peu, hein, je m'excuse, hein, on l'a pas, c'est du brut, hein, donc évidemment la caméra qui bouge, c'est pas très, très agréable, ça déstabilise un peu pour rien, et voilà. Donc j'ai tenu à vous faire, par ce petit extrait, rentrer dans l'ambiance et voir les principaux... L'ambiance, hein, je dirais, la manière dont certains éléments sont importants. Je reviendrai dessus, si j'ai le temps, tout à l'heure, que je crois qu'il est très important pour comprendre, justement, et le travail, ce que je vais tenter de faire maintenant, c'est d'illustrer le fait que, justement, par la nécrose, par la mise à mort de ce qui, pour moi, est de la pure spatialité, qui était cet endroit en montagne, qui est un lieu d'errance, qui était un lieu de chasse, qui est un lieu, ce que Deleuze appelait les lignes d'air, hein, les lignes d'air notamment bah, pour les sangliers, pour les loups maintenant, pour toutes les bêtes et les animaux qui sont par là-haut. Donc, ça c'est à discuter, hein, mais on a déjà vu ça dans nos débats ici, le rapport entre espace et lieu. Je, en tout cas, dans le cadre de mes hypothèses, comme je disais tout à l'heure, et c'est important pour que vous compreniez bien mon propos, et que je pense que notre débat soit le plus fructueux après, c'est véritablement cette dimension donc de l'espace qui, pour moi, est un peu première. Je vais vous lire là très rapidement ces deux lignes, ce que, justement, je me fonde sur ce que dit Heidegger dans « Remarques sur Ars Culture ». « L'espace est espace pour autant qu'il espace, les arts, qui libère le champ pour des alentours, des lieux et des chemins. très important parce que les sentiers, les routes que vous avez vues, hein, cette petite route d'accès qui d'un seul coup, c'est ma route. Hein, là, quand on a vu, c'est là où moi, la voiture de police qu'on a vu klaxonner pour passer, elle était passée devant chez moi. J'étais encore sur ma terrasse avec mes copies, moi, à ce moment-là. Hein. Ces sentiers sont très, très importants. Et là, on va voir comment il y a un véritable métabolisme des lieux. Je prendrai l'hypothèse rythmique. Je vais m'attaquer à cette question du rythme. Voilà, en tout cas, cette définition de l'espace. Mon hypothèse est que, justement, il y a une quasi-virginité spatiale au départ, qui est notre, si je reviens à ce que disait Abraham Moltz de l'espace, qui est une denrée. L'espace est une denrée. Est une denrée, est une possibilité de l'action. Et ce que je trouve très important, c'est que la dimension, justement, dans la manière dont le politique, et de plus en plus, le politique de l'hyperprésent, qui disparaît, thème de la disparition, qui disparaît en apparence, qui est d'autant plus efficient qu'il disparaît. N'oubliez pas que ceux qui sont en train de le faire disparaître ou qui disparaissent avec sont ceux qui nous avaient dit qu'il n'y avait plus d'idéologie. Hein ? Je crois que là, hein, il y a quand même quelque chose à penser en tout cas. Voilà donc pour ce qu'il en est de l'espace. Je le fais aussi, et la manière dont je vais me promener dans tout ça, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la dimension de l'ambiance, et c'est parce que j'interroge par l'ambiance que je suis très attentif à la temporalité. Je n'ai pas, ça serait trop long, et en plus c'est indéfinissable, ça a déjà tenté d'être fait très bien au tout début du colloque, l'ambiance. Je vais vous citer une petite phrase de Peter Soderdash qui ne parle pas de l'ambiance mais qui parle de l'écume, et c'est exactement la même chose, et ça dit très bien pour moi ce qu'est l'ambiance. Presque rien. Et pourtant, pas rien. Un quelque chose est cependant seulement un tissu formé d'espace, je reprends, d'espace creux et de parois très subtiles qui s'abandonnent et éclatent à la moindre tentative de s'en emparer. Donc vous voyez que nous sommes là, quelque chose qui est très fugitif, très difficile à saisir, qui demande une très grande humilité méthodologique et une très grande humilité épistémologique. Mais ça, je crois que ça vaut pour toutes nos recherches et pour tous nos travaux. Donc, un événement. Les routes se croisent, qui ne devraient pas se croiser. Les routes du ciel, et vous allez voir qu'il y a généalogie des routes de la Terre. Les routes du ciel, ne pas du tout oublier que dans cette partie de la Provence, la Haute-Provence, il y a un rapport pratique et affectuel au ciel fondamental. Nous avons soi-disant le ciel, et c'est vrai, le plus pur d'Europe. Le poids du ciel, Jean Giono, j'en ai parlé ici avec une de nos collègues. L'endroit où a eu lieu l'accident, paraît-il, a été véritablement choisi par Lubitz, le copilote, à cause de ses caractéristiques qu'il connaissait très bien, parce qu'il venait faire du deltaplane ou du... je ne me souviens jamais le nom... du parapente dans cet endroit-là. Même si Lubitz, par les boîtes noires, nous savons qu'il a tenté une tentative de piqué, non réussie, pas très loin de Bordeaux, ou par là, en allant en tout cas sur Düsseldorf. Et il a repris là. Il y a effectivement une attractivité très importante, et il y a là aussi le fait qu'il y a déjà eu de très nombreux accidents d'avion après-guerre, une soucoupe volante juste après la guerre en 1945. L'avion qui vient pour repérer cette soucoupe volante tombe à lui-même, et en plus, moi, ce qui me passionne et m'illumine complètement, c'est qu'effectivement, il y a aussi la grande mythologie des extraterrestres humides qui auraient leur base là. Et d'ailleurs, il y a des gens, et je suis allé travailler dans les archives de Seine, et ils ont fait ces magnifiques, un dossier, je l'ai pris en photo, je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas le temps, qui s'appelle le dossier des Illuminés, dans lequel on dit, mais enfin, bien entendu, tout ça, c'est le fait des extraterrestres, et c'est le fait, effectivement, de déséquilibre hein, dans le ciel qui prouve ça. J'ai un autre témoignage, j'ai quelques témoignages que j'ai repris qui sont un petit peu déviants, notamment quelqu'un qui me dit, qui m'assure tout à fait, qu'il réparait une voiture, il voit il lève les yeux, il voit la 320 accompagnée de deux avions, il voit à ce moment-là un avion qui vient de l'Italie, qui lance un missile sur la 320, l'avion s'écrase, et ça, c'est l'hypothèse du complot terroriste. Il y a juste derrière le plus grand barrage d'Europe, qui est le barrage de Serre-Ponçon, et donc ça aurait été un attentat, et après on a tenté de dire là-dessus le copilote Lubitz s'était converti à l'islam. C'est très important, ça. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien l'effet de contamination, et ce que j'ai tenté un peu de donner dans mon titre, que je ne n'honorerai pas, parce que quand je vous ai fait la proposition de communication, nous étions, je pense, en novembre, par la fin de l'année, et depuis, mon travail a changé, et je me rends compte que la contamination par rapport aux attentats ne joue pas à vrai temps sur le terrain. Par contre, d'un point de vue ambiental, il est sûr que nous sommes là dans un terrain complètement plombé par ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, et nous sommes avant le 13 novembre, hein. Évidemment, de la même année. Hein. Donc vous voyez qu'effectivement, les éléments interprétatifs de cet événement sont pris au départ, et même ça a traîné dans la police, dans la gendarmerie, j'ai interrogé des gens que je connais, qui ne pouvaient pas parler, évidemment les gendarmes ne peuvent pas parler, mais qui me l'ont dit, on a pensé attentat immédiatement, pour qu'ensuite après, ça soit enlevé. Alors, voilà pour ce qu'il en est, si vous le voulez, de la dimension empirique. Je vais faire un tout petit détour par mes prises de position théoriques, qui ne sont pas du tout pour faire la théorie pour la théorie, ça, c'est pas du tout, ça ne m'intéresse pas, mais c'est que tout simplement, je construis mes outils avec lesquels je vais à la pêche, à la chasse, et on s'est appris qu'ils me mettent dans un sacré... quand même état de réflexion. L'anthropologie sensible que je conduis ne peut être fondée, ne peut être écrite, ne peut être justifiée théoriquement que par l'engagement absolu du chercheur dans son corps et justement dans ses émotions. C'est véritablement l'immersion que moi je pratique sans aucun complexe. C'est-à-dire que si je veux parler effectivement d'aspects affectuels des choses, eh bien, d'émotions, j'y vais. C'est-à-dire que, par exemple, il m'est arrivé d'aller près du point d'impact, qui maintenant, vous l'avez compris, enfin, je reviendrai, j'espère ne pas l'oublier pour la fin de ma communication, il y a eu une sphère qui symbolise et qui fait lieu. Moi, qui m'intéresse énormément dans le jeune du lieu, c'est que cette sphère, maintenant, fait lieu, alors qu'avant, il n'y avait que des lignes d'air. Hein, d'air, E, 2R, E, hein, de l'errance, hein, du dispositif d'errance, ça me semble très important. Là, c'est solidifié, c'est sacralisé, l'étymologie de sacré, ça veut dire séparé, c'est sanctuarisé, et, je le dirai à la fin, de ce lieu est venu un contre-lieu qui est dans le sillage même des derniers instants de l'avion, et là, qui est une renaissance. Donc il me semble qu'il y a là une dialectique assez fine, et en tout cas pertinente, que j'ai voulu vous présenter dans le cadre, de cette réflexion commune que nous avons autour du lieu. Alors, on a parlé du temps tout à l'heure, et je trouve que c'est fondamental. Si vous voulez saisir une ambiance, vous êtes obligé de vous plier à... ou de vous laisser aller, plus exactement, hein, de vous laisser aller à l'affluence, de vous laisser aller aux changements les plus intimes et les plus subtils, qui sont temporels. Et moi, effectivement, de par mon travail, de par ma compétence et de par ce qui m'intéresse, je passe toujours par le filet sonore. Mais il ne faut pas rester là. Hein. Il ne faut surtout pas rester dans le filet sonore. Il faut voir, au contraire, comment le filet sonore peut ramener au tout. Donc, ce que je voudrais vous présenter très brièvement, c'est effectivement cet ajustement des rythmiques affectuelles et des rythmiques locales. Et il y a, je crois, là, une congruence très fine, très importante entre ces rythmiques qui nous peuvent nous faire comprendre comment le lieu est avant tout un espace rythmique. Et il y a le fait de pénétrer un lieu, il y a le fait de l'occuper, il y a le fait de s'en aller, de le quitter, parce que les lieux, on les quitte aussi, et ils peuvent rentrer dans les rémanences. Hein, on a parlé de Proust, hein, c'est évident, hein, de cette trajectivité, de cette trajection, pour reprendre le thème d'Augustin Berck, qui, je le souligne en passant, puisqu'il y a eu ici un très beau colloque, je n'y étais pas, mais je pense très intéressant, sur Augustin Berck, qui est quelqu'un qui me sert énormément à penser justement toute cette trajection, de se libérer de cette opposition cartésienne entre le dedans, le dehors, etc., et de penser l'inter, de penser l'intervalle, de penser le réajustement. On retrouve après des gens, bien sûr, toute la féminologie et des gens, par exemple, comme Merleau-Ponty, etc., si on voulait faire référence à nos lectures, à nos travaux et aux fondations même de nos projets de recherche. Je pars de l'hypothèse de strates rythmiques et j'en distinguerai deux, si vous voulez, là, pour bien comprendre. Vous avez ces strates rythmiques qui sont des strates rythmiques issues de l'affectuel coextensif et donc là de l'émotion, de l'hyperprésent et de l'instant de sidération. Vous avez donc là un instant dans toutes les catastrophes, on peut le voir, on le voit très bien dans tous les gens qui malheureusement étaient sur les lieux d'attentats, on le voit notamment dans toute la littérature sur la guerre, et la grande littérature qui a eu magnifique terrain d'expérience, enfin magnifique pour une chose horrible, tous les écrivains qu'on peut écrire, notamment sur 14-18, je pense à Blaise Cendrars et à tant d'autres, hein, et même au Poilu de tous les jours qui donnait tout ça, vous avez effectivement ce temps de sidération, qui pour moi est le temps émotif, en tout cas. Hein, tout ça, comme je vous le dis, hein, ce que je peux dire sur l'émotion et tout, ce n'est pas du tout ex cathedra, ni là, de l'endroit d'où je suis. Pas du, c'est, hein, au contraire, si vous remettez en cause et immédiat tout ça, eh bien, je le ferai. Donc, il n'y a pas de lieu substance, mais il y a effectivement des instants lieux qui sont... ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont tout ça... Dans ces instants ou lieux, tels que là, on peut les lire, eh bien, il y a des moments où c'est effectivement le lieu qui va vous parler parce qu'il a été fait lieu. Mais au départ, vous avez des balises spatiales, vous avez un certain nombre, en tout cas, de possibilités de l'expérience spatiale. Et après, vous avez, on l'a bien vu là, le rappel du dispositif. Là-dedans, il est absolument essentiel, le dispositif. Quand on est face au chaos, le chaos contre l'ordre, hein, et pour moi, il est rythmique, là, co-référence Deleuze, Guattari, Mille Plateaux, hein, Deleuze ou Guattari, ainsi, montrant, précisant bien que le rythme est ce qui s'oppose au chaos, à l'entropie. Donc, vous avez là, lorsque le lieu et le rythme du lieu peut faire effectivement forteresse, peut faire repli par rapport au chaos du monde, et donc à la spatialité, car la pure spatialité, c'est le chaos du monde, hein. Mais c'est notre devenir. Moi, je suis persuadé que quand nous arrivons au monde, nous n'arrivons absolument pas dans une salle de travail, n'importe quoi. Nous arrivons dans du pur espace. Hein. Vous avez des gars, nous sommes projetés dans l'espace. Hein. Et après, à toi, débrouille-toi, mon vieux. Et là, heureusement qu'il y a des gens qui vont t'indiquer les lieux. Sinon, tu es paumé et tu meurs. Hein. Là, il y a un trou noir. Hein. Il y a le trou noir qui est absolument fascinant de l'espace. Ce n'est pas pour rien que tout le monde veut le remplir. Évidemment. Hein. L'angoisse. Et la pulsion de mort, la peur de mort. Et vous savez que l'inconscient, selon Freud... et puis aussi, selon le psychanalyste qui j'en ai parlé l'autre jour, évidemment, vous le savez bien, l'inconscient ne connaît pas la mort. Alors, comment décrire, comment avancer dans tout ça? C'est de fixer effectivement les profils rythmiques des lieux. Et c'est ce que, par l'immersion, je fais. Je crois que là, il y a un moyen descriptif, un moyen graphique très important qui est d'arriver à se caler rythmiquement, hein, dans l'ambiance et aussi en regardant. Et ça, comme j'ai peu de temps, je dois résumer ce que je voulais vous dire. Comme il est très important de voir justement comment le dispositif qui a été mis en place, et je dois vous en parler donc très rapidement. Suite à cette sidération, suite à la catastrophe, nous avons que le dispositif qui est le dispositif de la mise en ordre, les densifications incroyables, 700 journalistes dans un pays, dans un hameau de 150 habitants. N'allez surtout pas dire que vous êtes journaliste à Seine-et-les-Alpes, on va vous foutre une paire de gifles, on coupe pas dans la figure, on les a détestés, on les a vomis. Effectivement, saturation des forces de l'ordre, les gens qui allaient acheter leur pain de leur maison tombaient sur le même CRS qui trois fois leur demandait leur papier. Hein. Et bon, mais c'est énervé en disant, enfin comment, vous ne me reconnaissez pas, regardez, voilà. Hein. Donc là, vous avez, c'est très important, et vous le voyez dans le film. D'un seul coup, pour répondre à la sidération, vous avez la puissance anxiogène, anxiolytique, la puissance anxiogène, elle peut l'être aussi, la puissance anxiolytique du roi, des rois, des chefs d'État, hein, en tout cas, hein, des rois, voilà, hein, vous avez cette puissance anxiolytique-là. Et donc, très rapidement, il y a une réponse dispositive qui est faite. Il y a tout le temps, et vous le verrez si vous allez, il y a toujours la même capture paysagère, qui est au lieu de la première stèle du Vernet, qui est une stèle mémorielle qui fait face à la montagne. écran. Et là, je peux vous assurer que le ciel fait écran. Comme je me sers de tout bois, pour moi, de terrain ethnologique, j'ai, comme je le disais hier, j'interviens, je donne cours à des étudiants en tourisme, je les ai menés sur le site pour voir si le tourisme mémoriel était quelque chose, ou le tourisme noir même, hein, qu'on en discute. Et je leur ai demandé de faire un exercice qui m'a beaucoup aidé, si c'était le sentiment d'ambiance ou le sentiment paysager qui était premier, ou si c'était le dispositif de mémoire. Ce qui est venu tout le temps, c'est la grande prégnance, la grande affoldance, la grande prise au sens d'Augustin Berg du paysage. Et ce paysage, cette montagne, fait écran au milieu de la stèle, ce qui est très bien là quelque part. C'est-à-dire qu'on peut projeter l'imaginaire, vous comprenez, l'imaginaire du deuil. Et ce que je vais tenter de faire, qui est beaucoup plus délicat maintenant dans ma dernière phase d'ethnographie, c'est effectivement d'accompagner les personnes qui le voudront bien. Et c'est là où vous voyez toute l'éthique de la recherche se rappelle tout le temps. Hein. Si on n'a pas une éthique forte, on ne peut pas faire d'anthropologie. On n'est plus à l'époque où les anthropologues giflaient les gens en Afrique pour les faire parler. Quoi, hein. Heureusement. Hein, hein. Mais enfin, vous savez, hein, c'est arrivé. Hein. Donc là, je tenterai de suivre, effectivement, et je termine. Hein, voilà, une minute. Denis. Je tâcherai de suivre. Donc, très rapidement, dans cette minute, et puis après, nous allons discuter. Je dirais tabula rasa, premier temps, tabula rasa, vous l'avez vu, les fragments, la spatialisation de la catastrophe. Et effectivement, il n'y avait vraiment pas lieu, parce que même s'il y avait eu lieu, l'avion aurait détruit le lieu. Mais nous avons donc étalement et nous avons spatialisation de tout. Le grand enjeu qu'ils ont eu émotionnel, politique. Et là, le jeu politique, je crois, a été au début, on a toujours cette défiance, mais finalement, ils ont été assez bien, je crois. Et on a tâché justement d'accompagner au mieux l'émotionnel. Hein ? Et évidemment, puisqu'il y a eu l'émotion de la Lufthansa, n'oubliez pas, c'est quand même la Lufthansa, la compagnie aérienne la plus sûre du monde, qui ont quand même un pilote un peu flippé qui se suicide et qui tue 150 personnes. Donc, tabula rasa. Ensuite, après, on fait des prises, il y en a trois. Il y a la stèle mémorielle, il y a ailleurs un travail artistique qui représente 149 tiges droites, qui sont les 149 victimes. Je vous rappelle qu'il y avait trois bébés et 16 adolescents qui revenaient d'un voyage linguistique. Cette personne, qui est un ami à moi, qui a fait cette stèle, a voulu mettre Lubitz à l'intérieur comme étant... mais il l'a mis en tige cassée à l'intérieur de la stèle et cimentée. Voilà. Donc vous voyez, nous partons de la pure spatialisation pour aller à la cimentation des choses. Il y a effectivement toute une trajectivité qu'il faut interroger. J'espère que mon travail pourra y contribuer. En tout cas, j'espère que là, j'ai pu un petit peu vous le faire comprendre. Je vous remercie.
Dans le travail de Mélanie, mais pas trop dans ta présentation, Patrick, c'est l'extériorité de cet événement. Parce que dans les deux cas, dans ce que vous montrez, c'est quelque chose qui est en dehors de la vie des gens et qui tout à coup arrive quelque part. Ça apparaît un peu plus dans tes récits, c'est comment, à un moment donné, il y a une relation entre des récits intérieurs ou des récits de vie d'individus, de personnes, de politiques, et cet extérieur qui induit une distance. Il y a une espèce d'ambiguïté, en fait, entre une distance... qui se limite avec l'événement, mais qui reste là, et une trajectoire de vie qui vient percuter, en termes de quelque chose de beaucoup plus intérieur.
Avant une réponse, est-ce que Sylvain, ta question est complémentaire ?
Il me semble. Je rentrerai,
c'est une autre. Vas-y rapidement, voilà. Et après une réponse.
Oui, parce que les chercheurs engagés, qui assume une part de subjectivité, j'en ai entendu beaucoup. Il me semble que c'est la première fois que j'entends un chercheur affecté par un événement dont il fait un objet de recherche, et un objet ou un sujet pas anodin puisqu'il a affecté son propre lieu de vie. Et en vous écoutant, j'ai senti comme une voix intérieure de quelqu'un affecté par cet événement parce qu'il s'est invité sur son territoire. Je ne sais pas si ça fait sens, mais en tout cas, c'est un feedback que je voulais partager. Oui.
Il faut répondre à... peut-être que dans le sens de la conversation, parce que je l'ai après, je vais le perdre. Je peux ?
Vas-y,
vas-y. Oui, je ne veux pas du tout. Hein, voilà. Oui, ça demanderait développement. Je vais être très court. moi, personnellement, on parlait beaucoup de soi. Hein, c'est l'engagement toujours personnel du chercheur. Je ne peux pas faire ce travail, je ne le ferai pas. S'il n'y avait pas quelque chose qui me fasse vibrer. Et même dans ma trajectoire personnelle en tant que chercheur, j'ai mis longtemps pour trouver l'objet de mon désir. Cet obscur objet du désir. Hein, Buñuel. Hein, cet obscur objet du désir. Je veux dire, quand on fait... On est fou. Je veux dire, moi, j'appelle ça l'épistémopholie. C'est l'épistémopholie. Et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je peux, moi, personnellement, heureusement qu'il y a ça, c'est que je fais parallèlement à ça un texte qu'on va appeler poétique, hein, qui n'est pas du tout, qui n'est pas là, bien sûr. Et là, je peux vous assurer qu'il est vraiment trash. Hein. Et voilà. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'il peut être très inconvenant. En tout cas, il est très impolitiquement... il n'est pas du tout politiquement correct. Mais bref, pour vous dire qu'il y a... C'est bien ça, il y a des tas de... vous mettez beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des moments où on était très émus. Moi, j'ai donné une conférence là-dessus pour la semaine du son à Digne-les-Bains. La salle était pleine et je me sentais très mal. On a beaucoup réfléchi à la dimension quand même éthique. Hein, quand on voit les gens, lorsqu'ils sont venus pour le 3e anniversaire à la cathédrale de Digne, il y a l'office, je me suis mêlé en prenant des notes aux familles qui étaient là, et ça s'est passé par le regard, ça s'est passé par le visage, c'est passé parce que moi, je savais en tant que chercheur de Lévinas, et je suis là, et j'étais là, et j'étais très mal, il y avait des gens quand même au bord des larmes, il y a des gens qui sont là, vous dites, mais attends, c'est quoi mon boulot là? Et il faut faire attention, quoi, hein, vous voyez? Donc, évidemment qu'il y a cette vibration, absolument. Mais sinon, moi je ne fais pas ça pour la carrière, j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas, tout ça. Hein. Ne m'intéresse pas du tout. Donc, effectivement, c'est parce qu'il y a cette dimension de co-vibration.
Donc, moi, je ne suis pas tout à fait dans le même cas, parce que c'est vrai qu'en cinéma, je pense que pour la plupart des travaux artistiques, on parle beaucoup de ce qui nous touche, quand même, et puis d'une certaine fragilité par rapport à des situations et... Je pense que c'est peut-être plus classique. Et à la fois, je me le demande parce que je ne suis pas du tout sûre que les chercheurs ne partent pas de ce qui les touche et de ce qui les fragilise. Mais par contre, je suis étonnée du fait que ça puisse être des choses complètement séparées dans la recherche. Et je trouve que dans ta présentation, ce n'était pas du tout séparé. Je me demande à quel moment tu sépares justement la poésie de ça. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de l'y faire entrer? Je ne sais pas. Pour la question de l'extériorité de la catastrophe elle-même, oui, évidemment, il y a quelque chose de l'ordre d'un événement qui arrive de nulle part et qui vient bouleverser un quotidien à un point assez fort et d'autant plus fort, je pense... Pour moi, il y a quand même une petite différence entre catastrophes, dans le sens où la catastrophe nucléaire, elle s'installe dans le temps de manière très forte et de manière très... disons qu'elle évolue de manière très particulière, puisqu'elle reste tout en étant de moins en moins visible, de moins en moins perceptible, de moins en moins compréhensible. Enfin, les gens en tiennent de moins en moins compte, bizarrement, du fait de son invisibilité, etc. Donc, elle a quelque chose d'à la fois très extérieur et très enveloppante et très pénétrante. Elle arrive à être absolument partout sans vraiment y être. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là qui est compliqué et qui, moi, était une des choses sur lesquelles j'avais envie de travailler, enfin, en demandant aux gens comment ça s'intégrait à ça, à quelque chose de l'ordre du quotidien. Donc après, je ne sais pas si ça répond vraiment à cette question-là. Moi, il y avait par exemple des lectures qui m'avaient semblé intéressantes du côté d'un philosophe qui s'appelle Timothy Morton, qui parle d'hyper-objets, de certaines... Parce que je pense que sans être dans la catastrophe nucléaire, on est dans un temps où il y a certaines catastrophes et certaines situations mondiales qui nous dépassent de manière extrêmement forte. Où on a beaucoup de mal à circonscrire les choses, que ce soit la catastrophe écologique, que ce soit la question nucléaire et bien d'autres choses actuelles. Et moi, il y avait une chose qui me semblait ressortir à travers plusieurs monologues. Là, je vous ai parlé d'un seul, mais de cette nécessité d'en repasser par des choses très... très concrète, par des gestes tout petits. On découpe le sanglier avec un seul couteau, et d'en revenir à des choses très matérielles et très facilement attrapables pour des êtres humains, pour arriver à un moment faire avec quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc voilà, je sais pas, c'est les choses qui me venaient.
Je voudrais amener un élément de réponse. Je voudrais amener donc ma réponse un petit peu, si j'ai bien compris votre question. Je la trouve très, très importante et en fait très contemporaine. Je dirais moi, justement, puisque nous réfléchissons à l'affect des lieux, je dirais que ce type de situation que nous venons de vous présenter peut être un exemple paradigmatique assez important de ce que moi j'appelle le tenseur émotionnel et dans l'hyperprésent. Qu'est-ce qui se passe? On l'a encore vu hier avec les nouvelles technologies, etc. Nous sommes dans le règne de l'ubiguïté, me semble-t-il. Vous pouvez me contredire, je le crois bien. L'angoisse et l'ubiguïté est vraiment quelque chose d'anthropologiquement très, très puissant chez l'homme. Ces chasses qui passaient... il faut toujours rapatrier de l'espace pour faire lieu, sinon on ne vit pas. Il faut rapatrier de l'espace pour faire lieu. Et donc vous avez un tenseur émotionnel là entre l'ubiguïté et l'événement. Interrogeons en tout cas notre belle langue française. Un événement a eu quoi? Tiens, un événement a eu lieu. Ha! Ha ha! Et ça, on ne partait pas de là. Allez, hop! Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes bien, ma belle langue? Ça, il fallait contre. Il faut casser tout ça, quoi. Mallarmé, Rimbaud, tout ce que vous voulez. Artaud! Et l'anthropologue là-dedans, justement, dans sa folie, dans son épistémophilie, il va être un peu par là. Deux minutes, mais je termine. Donc, moi, je crois qu'il y a effectivement, et ça, c'est très présent, et c'est très politique. C'est complètement ça. Où allons-nous rapatrier l'ubiguïté d'aujourd'hui, avec toutes ces suraugmentations de tout? Mais où? Peut-être qu'on va trouver des lieux. Moi, je ne désespère pas. Et donc, si vous voulez, je terminerai, je n'ai pas eu le temps de le dire, justement, c'est qu'il y a là un conflit d'affect entre l'ubiguïtaire et notamment ces journalistes venus de nulle part, de l'ubiguïté, porteurs du dispositif émotionnel mondial et mondialisé, d'accord? Et là, pour répondre, c'est que ça... Et les gens qui étaient là, qui sont dit, mais ça a lieu près de chez moi. Et c'est tellement important que le travail d'investigation que j'ai fait sur Internet, en Allemagne... Les gens interrogés disaient, mais vous vous rendez compte, l'Oubitz a habité à côté de chez nous. Vous voyez cette proxémie. Donc, je crois, cette tendance véritablement profondément humaine que nous avons, qui est nous luttons contre l'entropie spatiale de l'espace, ben, par l'embrassade, quoi. Se prendre dans les bras, qui est finalement la première et la dernière niche.
Il y a au moins 3, 4, 5 questions, je ne sais plus. Dans l'ordre, Olivier, Philippe, Gina...
J'avais une question à l'attention de Mélanie. À un moment donné, vous avez parlé par rapport à votre travail de captation des témoignages de ces habitants, vous avez parlé du dispositif de la caméra comme une manière d'atténuer la mise à nu impudique ou de faire donc d'introduire une distance par rapport à l'intime aussi de ces habitants. Et donc, il y avait cette question de mise à nu impudique et un dispositif artificiel de l'enregistrement, ce que j'ai noté. Si vous pouviez peut-être préciser cette question de la distance qui est importante, parce qu'on a beaucoup parlé de distance aujourd'hui et de rationalité aussi, quelque part une distance.
Oui, bah, justement, enfin, par rapport à la question de témoignage, pour moi, c'était important parce que de souligner qu'il ne s'agissait pas en fait vraiment de témoignage, puisque ce que je demande, vous l'avez compris dans le dispositif, c'est de raconter un récit, puis de le re-raconter, de le re-raconter encore. Et ce qui m'intéresse plus, c'est la structure du récit, la façon dont il se construit et dont il va chercher. Vous avez vu ces allers-retours entre un passé, essayer de se projeter dans le futur. Donc c'est plutôt sur le mode de récit que sur les faits, on va dire, que ça m'intéresse. D'autant que je ne leur posais jamais véritablement directement la question de la catastrophe, ni d'un avant, ni d'un après, ni de ce qu'ils faisaient ce jour-là. Donc il y a vraiment quelque chose pour moi qui était de l'ordre de décaler par rapport au témoignage. Et qui consistait vraiment à se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans comment le traumatisme agit sur la manière de pouvoir faire récit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, à un moment, qu'est-ce qu'on a besoin de refabriquer pour refaire du sens, pour refaire tenir les choses et pour faire que ça puisse encore aller, malgré ça et malgré la difficulté que ça a mis dans la possibilité de se projeter dans un devenir, quoi, puisque vraiment la question de la contamination, elle est très difficile de ce point de vue-là.
Je ne sais pas si c'est... Vous n'avez pas répondu sur le choix du style.
C'est une question qui me paraissait intéressante.
La différence entre le choix entre les deux,
Vas-y, Philippe.
C'est pas moi qui filme.
Pardon. Philippe. Simplement... Je disais donc que j'intervenais en tant que garçon de café, mais simplement sur la nostalgie.
Je voudrais café cerise.
Sur la nostalgie. La nostalgie à chaud, moi c'est ça qui m'a frappé, quoi, dans le récit sur cet espace de la catastrophe, quoi. Et le rapport au sauvage aussi. Et ça, qu'on retrouve dans l'autre. Présentation. Et souvent, en fait, moi, sur les choses, sur les objets sur lesquels je travaille, la nostalgie est à froid et apparaît au fur et à mesure qu'on s'éloigne, quoi, de l'événement. Et ça, alors là, il faudrait que tu nous expliques, parce que c'est en effet une notion qu'on pourra retrouver chez Berthe, mais jamais, je ne l'ai jamais trouvé comme ça. J'ai bien trouvé dans la tension, j'ai bien trouvé dans la continuité, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait un espacement temporel, quoi. Et comment est-ce qu'on explique cela? Parce que ça m'interroge beaucoup, on va par rapport au tout, évidemment.
Oui, bien sûr.
Oui, enfin justement, c'est ce que j'essaye. C'est ce que j'ai l'impression de sentir dans cette histoire-là, que cette catastrophe, elle a une telle. Force de basculement spatio-temporel, vraiment, c'est-à-dire que dans ce qu'elle met en jeu, par exemple, la durée de vie des radionucléides qui nous projettent d'un coup à 100 000 ans, un territoire qui devient criblé de taches de léopard où on ne peut plus trouver de continuité. Il y a quelque chose qui fait vraiment basculer les références spatio-temporelles qu'on peut avoir et qui, j'ai l'impression, du coup, produisent d'un seul coup, cette distance qu'on aurait besoin normalement de construire pour avoir de la nostalgie. Voilà. C'est disons, l'intuition que j'ai par rapport à ça. J'ai l'impression, à force d'entendre les gens en parler, qu'en effet, ils peuvent avoir une nostalgie pour un paysage qu'ils n'ont pas quitté, dans lequel ils continuent à habiter, et que cette nostalgie est assez particulière, en effet, mais que c'est une véritable nostalgie, quoi, d'un temps où on peut se balader dans la forêt et passer dans les champs sans qu'il y ait cette idée qu'il y a peut-être des choses qui sont extrêmement nocives, qui vont vous tomber dessus. Et le rapport au sauvage, pour ça, est assez important, parce que ce qui a été beaucoup touché, par exemple, dans la région de Towa, c'est la forêt. La forêt qui est déjà au Japon un lieu du sauvage, un lieu des esprits, un lieu qui est habité par beaucoup d'invisibles, a priori dangereux, par des moins invisibles aussi sauvages, qui sont les sangliers, etc. Mais en plus, c'est rajouté la radioactivité dans ces endroits-là. Il y a une certaine forme de continuité sur certains points, des aspects complètement discontinus sur d'autres. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très instable qui, selon ce que j'entends dans les récits, crée une forme de nostalgie quasi immédiate, en fait, et sans besoin de départ.
Bien, si je peux juste...
Non,
pendant le repas.
Désolé. Non, juste, Gina a demandé la parole, et c'est la dernière question. Désolé, Joël, désolé, Fimage.
Ok, j'ai une question pour vous deux, par rapport aux écrans, et au sujet général des écrans, mais aussi à propos du média que vous avez choisi et de la mise en scène. Donc, Patrick, au début et à la fin de ta présentation, tu as parlé des écrans, en disant que l'écran, bon, c'est juste dit pour rire peut-être, mais au début, tu as dit que les écrans, ça cache toujours quelque chose, mais à la fin, tu disais que le paysage était écran pour la projection, justement, de l'imaginaire du deuil. Donc, le paysage en tant qu'écran de projection, qu'est-ce que cela cache ou de quoi est-ce que cela sépare? Deuxième partie de ma question pour toi, c'est pourquoi tu as choisi en tant que documentaire, de filmer au lieu de seulement créer un documentaire sonore. Et Mélanie, en tant que mise en scène, pourquoi tu as choisi l'arrière-fond noir au lieu de mettre ce jeune homme en scène sur place?
Alors, très, très, très vite, je n'ai pas choisi de filmer, je n'ai pas filmé. Il y a un film qui sera présenté ici, donc à Thérésie, au mois de septembre, dans le cadre avec le Cresson et l'École d'art d'Annecy, par celui qui travaille avec moi et qui fait le film. C'est tout simplement, comme j'ai expliqué, pour tout. Il s'appelle Stéphane Loy, c'est un jeune artiste, Stéphane Loy. Et ça y est, là j'ai perdu le truc, on me dit d'aller vite, on fait une question, je ne sais plus. Et donc, effectivement, c'est de créer, comme je le disais, des instants tensionnels pour m'interroger et pour finalement interroger mes points aveugles et les siens. C'est tout un travail de longue durée, d'expérimentation et de... Voilà, hein, c'est le premier. Deuxièmement, en ce qui concerne les écrans, un peu rapidement peut-être, de manière un peu artificielle, je me suis reporté à ce système, enfin, à ce travail épistémologique quand même assez fort que j'ai été amené à revisiter dans mon travail, je l'ai dit, qui n'est pas du tout de moi, qui est celui de Lacan et qui fonctionne, qui est très utilisé notamment bon, dans les approches un peu analytiques, et quand même, je crois, on l'a bien vu hier, je l'ai dit hier, qu'il faut faire très attention entre parler de le réel, la réalité, c'est pas du tout la même chose, et le réel, justement, est ce méconnaissable absolu. Et là, dans la mort, on a effectivement l'événement réel. Et l'événement de mort, co-référence Yankelevitch, par exemple, ce qui ne peut être parlé, l'ineffable, etc. Yankelevitch, philosophe français, en a beaucoup parlé. Donc, effectivement, le paysage-là, il est là pour faire, justement, hédonisme, quelque part aussi, et pour cacher cet événement qui a eu lieu dans un petit cirque que personne n'a vu, que personne n'a entendu. Moi, j'ai interrogé des gens qui avaient vu l'avion dans les quelques dernières secondes, mais l'avion était encore vivant, avec les gens devant, si je peux dire. Hein, d'accord ? Donc, effectivement, c'est cette oblitération dont je parlais, cette impossibilité d'affronter la mort, qui est anthropologique et qui nous est coextensive, hein, mais qui prend, là, dans notre hypermodernité, ou postmodernité, comme vous le voulez, une tonalité particulière qu'il faut interroger. Hein, voilà ce que je disais par rapport... Et ce dont j'ai un petit peu peur, là, c'était sur l'avenir et la projection de soi, ce qui, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une déréalisation très fondamentale de l'expérience contemporaine qu'il faut interroger parce qu'elle est essentiellement politique.
Oui, pour la question de la mise en scène, ben moi, il y a plusieurs choses en fait, qui rentrent en compte dans le choix de ce dispositif-là. Il y avait cette question du témoignage et du fait de mettre plutôt les gens dans une situation de conscience d'une construction, d'une performance, je dis un peu, de leur récit. Donc, du coup, d'être dans quelque chose, dans un moment un peu protocolaire, où ils ont besoin de rentrer sur une scène, de s'installer, où il y a 7 minutes avant et 7 minutes après, où ils réfléchissent et au récit qu'ils vont faire et au récit qu'ils viennent de faire, de cette répétition. Et après, il y avait aussi la question pour moi des images. Après Fukushima, il y a eu énormément, énormément de documentaires faits à Fukushima. Beaucoup d'images des lieux. Je pense que tout le monde a vu ces bateaux sur les maisons, ces sacs de déchets entassés. C'est beaucoup d'images très fortes, mais beaucoup vues. Et j'avais envie de repartir de quelque chose de très neutre, en fait, dans lequel ce soit leur récit qui construise un paysage. Alors, voilà, c'était ça l'idée de départ, et de pas être... de ne pas devoir repartir de ces images que j'avais trop vues et que je n'avais pas envie de remontrer. Voilà.